SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Messieurs, dames, bonjour. Avant de vous proposer cette Europa Voice, on tenait à faire une petite mise à jour. Dans cet épisode numéro 121, tourné le jeudi 21 septembre, nous évoquons avec Nathanaël Bloch la décision de la Pologne de ne plus fournir d'armes à l'Ukraine. Toute la première partie est donc consacrée aux relations bilatérales entre Kiev et Varsovie. Eh bien, nous avons appris quelques heures plus tard que finalement la Pologne honorerait les livraisons convenues antérieurement et s'est dit prête à discuter avec Kiev de son embargo sur les céréales. Voici donc pour l'avancée de l'actualité, mais l'épisode que nous vous proposons maintenant a été enregistré en studio juste avant cette annonce, annonce faite par le porte-parole du gouvernement polonais. Merci donc d'en tenir compte et on vous souhaite une bonne écoute, messieurs, dames. Europa Voice numéro 121 avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne.
On va parler relations bilatérales aujourd'hui. D'un côté, celles qui se tendent entre la Pologne et l'Ukraine, et de l'autre, celles qui semblent se réchauffer entre la France et le Royaume-Uni. Allez, c'est parti, on commence avec notre premier sujet. Nathanaël, le Premier ministre polonais a annoncé ne plus vouloir fournir d'armes à l'Ukraine. C'est un peu une onde de choc pour Kiev, puisque Varsovie était le plus grand fournisseur d'armement depuis le début de l'invasion russe.
Effectivement, Marianne, c'est un tournant en fait dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est un tournant parce que la Pologne était probablement un des plus fervents alliés de Zelensky depuis le début de la guerre en Ukraine. Et que là, alors que finalement, on ne s'attendait pas forcément à cela, le sommet des Nations Unies a donné lieu à une brouille directe entre les deux anciens alliés, sur fond aussi, Marianne, de protectionnisme économique et d'importation céréalière.
Mais alors justement, expliquez-nous en quoi, on en a beaucoup parlé sur Europa Voice des exportations de céréales, on n'a jamais évoqué la Pologne, c'était surtout entre l'Ukraine et la Russie. Expliquez-nous, Nathanaël, en quoi le conflit sur les céréales concerne la Pologne et en quoi ça a aidé à ternir les relations entre les deux pays.
Alors en fait, effectivement, il faut faire un pas en arrière pour comprendre pourquoi la Pologne a décidé de ne plus fournir d'armes à l'Ukraine. Et ça, il faut l'expliquer par les tensions autour des matières premières, les tensions autour des importations ukrainiennes de céréales. Alors, le premier élément, c'est, rappelons-nous-en pour les auditeurs d'Europa Voice, c'était que face au boycott russe et face au blocage russe des importations céréalières ukrainiennes face au blocus dans la mer Noire, il y avait un certain nombre de pays qui permettaient à l'Ukraine d'exporter des céréales. Sauf que le problème, c'est en exportant de manière un petit peu, en gonflant de manière un peu artificielle les exportations de céréales ukrainiennes, ça faisait que les prix augmentaient dans les pays qui gonflaient ces importations d'Ukraine. Ça faisait que les silos au sein de ces pays-là étaient pleins, donc il y avait un trop-plein, il y avait un coût des céréales qui était plus important que la moyenne, et donc en fait il y avait 5 pays au sein de l'Europe qui avaient obtenu une exemption par rapport à ces importations de céréales ukrainiennes. Et en fait, cette exemption n'a pas été renouvelée. C'était vu par Bruxelles, en fait. C'était par rapport au droit de la concurrence. C'était pour que la concurrence, justement, ne soit pas faussée. C'est un peu, si vous voulez, pour nos auditeurs d'Europa Voice, c'est un peu comme l'histoire du plombier polonais en France et au différentiel de coût de la main-d'œuvre. Artificiellement, on mettait des entraves au mécanisme du libre-échange et au mécanisme du marché libre. C'est ce qui s'est passé avec ces importations céréalières. Sauf que là, Bruxelles a estimé que c'était bon, il n'y avait plus de distorsion de la concurrence. Donc ces 5 pays n'ont plus favorisé ces exportations ou ces importations de céréales ukrainiennes. Et donc, la Pologne a été accusée par Kiev d'aider indirectement la Russie en interdisant l'importation de ces céréales ukrainiennes. Et donc, la réaction de Kiev, c'est une réaction à la réaction polonaise qui, elle-même, n'importait plus ces céréales ukrainiennes. Donc, c'est une réaction en chaîne, en fait, qui fait que cette brouille en est venue jusqu'au devant des Nations Unies et a complètement brouillé le message de Volodymyr Zelensky.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Premier ministre polonais à aucun moment n'a dit que c'était pour cette question de céréales ukrainiennes qu'il ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine. Il a d'ailleurs avancé un début d'explication, sans dire que c'était exactement pour ça, mais il a dit qu'il voulait désormais se concentrer sur son propre armement afin que, je cite, « la Pologne devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce, dans un délai très court ». Est-ce que c'est crédible de la part du Premier ministre polonais ?
Il y a sûrement une part de vérité, c'est-à-dire que Pologne, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a des élections qui arrivent bientôt. Il y a le parti Justice et Liberté qui brigue son troisième mandat. C'est un parti qui est très à droite. C'est un parti qui risque de faire coalition même avec l'extrême droite. Donc forcément, sur des thèmes de campagne à droite, et celui de l'armée, celui de l'armement, celui d'une armée puissante, en est un. Donc, il y a une réalité politique face à ces déclarations de faire une armée, une des armées les plus puissantes. C'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est que, évidemment, que ça n'est pas totalement vrai. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une part qui est aussi liée à ces conflits autour des céréales. Et puis surtout, il y a un effet aussi d'entraînement, parce que là, on a mis le doigt sur l'exemple polonais face à ces questions de saturation des silos, face à ces questions d'effondrement des prix. Mais la Pologne n'est pas toute seule. Il y a d'autres pays, il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie, il y a la Bulgarie, il y a la Roumanie. Donc il y a aussi, si vous voulez, cet effet collectif qui fait que j'ai tendance à penser que d'un côté, ça n'est pas totalement lié, mais d'un autre, quand même, c'est une réponse qui est commune de la part de tous ces pays-là pour dire, voilà, effectivement, l'aide à l'Ukraine, c'est bien, mais la santé économique, l'indépendance économique de nos pays, c'est important aussi. Et puis, on a cité la Hongrie, la Pologne avec le parti Justice et Liberté, c'est des pays qui sont quand même très à droite. Et donc, c'est des thèmes, j'allais dire, de campagne aussi, encore une fois, là, pour la Pologne, qui est celui d'une armée forte, qui marche, en tout cas, auprès des électeurs de droite en Pologne.
Est-ce qu'il y a une forme de lassitude d'aider l'Ukraine au bout d'un an et demi de guerre ?
C'est intéressant parce que s'il n'y a pas une forme de lassitude, il y a en tout cas un agacement certain des alliés qui commencent à ne plus totalement adhérer au discours ukrainien qui est de dire « vous ne nous aidez pas assez ». Et ce n'est pas que des pays de l'Est, hein, c'est aussi de la part même des alliés, j'allais dire, américains, du Royaume-Uni, il y a quelque chose comme presque un manque de gratitude qui commence à être ressenti par les chancelleries occidentales. Et les Américains même sont assez finalement agacés de l'attitude de Zelensky, avec ce sentiment qu'on leur force presque la main à décider quelle sera la nature de l'aide qu'ils apporteront à l'Ukraine. Alors que, encore une fois, hein, on a tous ces pays-là, ça fait des mois et des mois qu'il y a une aide qui est apportée à l'Ukraine. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est que les alliés pensaient peut-être apporter cette aide pour que le conflit cesse, ou en tout cas qu'une solution négociée soit trouvée. Et puis là, il semblerait quand même que sur le terrain, ça devient plus compliqué que ça ne l'était, ou en tout cas que c'était envisagé pour Zelensky. Donc, il y a effectivement un manque de gratitude qui est ressenti parmi les différents alliés de l'Ukraine ces derniers mois.
Mais justement, vous parliez tout à l'heure de réactions en chaîne et un petit peu d'effet boule de neige. Cette annonce du Premier ministre polonais, elle intervient à un moment crucial qui est l'Assemblée générale aux Nations Unies. Ça vient ternir le message de Volodymyr Zelensky qui est de dire « aidez-nous plus, aidez-nous encore ». Est-ce que Kiev peut concrètement s'en sortir sans les armes polonaises ?
Kiev ne peut pas s'en sortir sans l'aide des Européens. Alors après, est-ce que c'est les armes polonaises ? Il ne faut pas l'oublier, hein, les Polonais aussi ont été un des premiers pays à aider et à fournir des armes à l'Ukraine. Alors la question, c'est est-ce que ça l'était moins pour aider l'Ukraine que pour se protéger de la Russie et faire un peu zone tampon. Et donc, est-ce que dans l'intervalle, comme les relations semblent s'être aussi réchauffées, du moins apaisées entre la Russie et la Pologne, ben, l'effet boule de neige, ça fait qu'on peut se permettre de ne plus fournir des armes à l'Ukraine. Ça, c'est plein de questions qui sont en suspens. Mais en tout cas, peut-être sans les armes de la Pologne, mais sans l'aide et sans le soutien des alliés, il est évident que Zelensky court à sa perte. Donc, c'est un pari qui est aussi assez risqué, j'allais dire, ce forçage de main de la part de Zelensky, parce qu'il a besoin, objectivement, de l'aide des alliés sur le terrain, en termes d'armes notamment, pour pouvoir tenir tête à Poutine. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que parmi les alliés et parmi ceux qui peuvent potentiellement fournir des armes à l'Ukraine, Zelensky reste aussi sur des rencontres assez contrastées avec d'autres pays, notamment les pays des BRICS, les pays émergents, l'Afrique du Sud, le Brésil et même l'Inde, alors qu'il s'attendait à avoir un soutien un peu plus massif. Donc la décision, c'est que Zelensky n'a pas non plus entre les mains la capacité de pouvoir se fâcher avec ses alliés géographiques les plus proches. Et donc, on est dans une position un petit peu... maintenant, on est dans l'expectative, en fait, de voir quelle va être la prochaine vague de soutien de la part des alliés, notamment après cet arrêt de l'acheminement des armes polonaises à l'Ukraine.
Mais alors, comment on explique le comportement de Volodymyr Zelensky? Parce que cette réaction polonaise, vous l'avez un petit peu touché du doigt tout à l'heure, elle n'est pas arrivée de nulle part. C'est un effet cascade, parce qu'on rappelle que Volodymyr Zelensky, à propos justement de ce conflit sur les céréales, a dit, sans citer la Pologne, mais on sait tous qu'il parlait de la Pologne, « Certains pays feignent la solidarité avec l'Ukraine, mais en soutenant indirectement la Russie. » Volodymyr Zelensky, en disant ça, va se mettre directement la Pologne à dos. À quoi il joue? Pourquoi il prend un tel risque?
Alors, il se met effectivement la Pologne à dos, et ça a entraîné le rappel d'ambassadeur, d'ailleurs. Là, c'est le jeu politique. C'est aussi le théâtre, c'est la tragédie, c'est Rome, c'est tout. Et c'est la volonté de Zelensky de motiver, de rassembler, de montrer que la situation est ce qu'elle est, et elle est compliqué pour lui. Maintenant, alors, est-ce que c'est une vision qui est trop court-termiste? Est-ce qu'il s'est mis définitivement à dos ses alliés polonais? Ce qui est aussi très bizarre, c'est que cette intervention de Zelensky lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York et ses piques, hein, pas du tout déguisées, hein, adressées directement à la Pologne, encore une fois, elles interviennent dans un contexte où le parti au pouvoir en Pologne est donné pour l'instant largement victorieux aux prochaines élections législatives qui ont lieu dans un mois. Donc c'est aussi assez difficilement compréhensible pourquoi Zelensky est en train de cracher dans la main qui non seulement le nourrit actuellement, mais qui va certainement continuer à le nourrir les prochaines années. Donc élément extrêmement difficilement explicable, encore une fois, avec la Pologne, mais aussi avec cet agacement et cette gratitude qui semble manquer pour les alliés américains. Alors est-ce qu'il a voulu mettre bluffé d'une certaine façon et faire quelque chose de théâtral, taper du poing sur la table à l'ONU? En tout cas, c'est très risqué et on verra d'ailleurs dans les prochains mois ce que sur le terrain, comment ça va se traduire en fait sur le terrain, cet arrêt de la fourniture d'armes polonaises à l'Ukraine.
Je voudrais vous poser une dernière question à ce propos-là qui nous aiderait un petit peu à répondre, à savoir est-ce que ça va empirer ou est-ce que ça va se réchauffer. On vient de parler des armements, mais la Pologne, ça a été aussi le pays qui a le plus réceptionné de réfugiés ukrainiens. Donc là, on parle de l'armement, mais il y a aussi également l'aspect humanitaire qu'il faudrait soulever. Est-ce que si les relations entre la Pologne et l'Ukraine continuent à s'envenimer, il y a un risque pour l'humanitaire, pour les réfugiés ukrainiens?
Cette question-là, effectivement, Marianne, elle est importante parce que sur la question des réfugiés, sur la question des mouvements d'hommes, mardi, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, pour son premier discours en fait, à la tribune, Zelensky a défendu le principe d'un sommet pour la paix. Il a aussi tenté finalement de montrer que l'Ukraine n'était pas la seule victime de la Russie dans la région, qu'il y avait des victimes indirectes. Et sur la question des réfugiés, il a aussi qualifié les déportations d'enfants ukrainiens par Moscou de génocide. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a aussi tout un narratif qui est en train de se développer du côté de Zelensky, de vouloir montrer que ce qui se passe avec la Pologne et en fait ce qu'il essaie de montrer quand il dit que la Pologne joue un peu un double jeu, c'est aussi les conséquences que ça a non seulement sur l'armement, mais aussi les conséquences que ça a sur les hommes. Encore une fois, c'est très risqué parce que c'est larmoyant, c'est tragique, etc. Mais en même temps, est-ce que ça va plutôt donner lieu à un réveil d'autres pays ou est-ce que ça va simplement conforter ceux qui aidaient déjà objectivement l'Ukraine sur le terrain à se dire « Attendez, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Nous, on l'aide depuis le début, on accueille des réfugiés, on fournit des armes, on prend aussi des risques dans notre relation avec notre grand voisin aux portes de l'Europe. » Donc c'est effectivement très difficile de comprendre à la fois l'attitude de Zelensky et les piques vis-à-vis de ses alliés objectifs à mettre en miroir avec ses appels et ses grands discours devant les Nations Unies. Mais c'est un peu pareil, là on a parlé des réfugiés, mais c'est un peu pareil quand il a fait son discours devant le Conseil de sécurité et qu'il a parlé en fait du droit de veto des Russes et qu'il ne comprenait pas, en fait, qu'il mettait encore une fois en perspective que c'est compliqué d'avancer sur des résolutions de conflits si les Russes ont un droit de veto. S'il est seul, il n'arrivera à rien, il faut qu'il convainque, qu'il entraîne avec lui d'autres pays. Et donc là, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où il donne de la tête et quels vont être les prochains qui vont prendre des risques pour que ce soit encore une fois une coopération humanitaire, une coopération en termes de fourniture d'armes, coopération diplomatique, mais quels vont être les prochains pays? Et je crois que c'est ça aussi la question maintenant dans la prochaine phase du conflit. Quels vont être les prochains alliés objectifs de l'Ukraine dans les prochaines étapes du conflit avec la Russie?
Beaucoup de questions en suspens. Merci beaucoup, Nathanaël. On passe à notre deuxième sujet maintenant. Le roi Charles III est en visite officielle en France durant 72 heures, une visite qui était prévue en mars, mais qui avait été reportée à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que ce déplacement, Nathanaël, marque à lui tout seul le réchauffement des relations franco-britanniques?
Ça marque effectivement, Marianne, des relations en tout cas apaisées, notamment après les affres liées au gouvernement de Boris Johnson et de Liz Truss. Moi, j'aime bien aussi, il y a un éditorial de nos confrères du Monde qui parlait d'une nouvelle entente cordiale qui était au début du XXe siècle le terme qui avait été trouvé pour qualifier les relations entre le Royaume-Uni et la France après des siècles de conflits. Donc effectivement, c'est des relations qui sont apaisées post-Brexit parce que en fait, depuis 7 ans, on n'a toujours pas eu les bases d'un nouveau départ. On a l'impression qu'on était resté, même ces dernières années, alors que tout était fait déjà par rapport au Brexit, mais on était resté encore sur une espèce de rancœur. Alors que là, on le voit, hein, avec Rishi Sunak, même avec le chef des travaillistes britanniques, Keir Starmer, dont on avait parlé dans un précédent numéro d'Europa Voice, avec l'ensemble en fait, de la classe politique britannique, côté Tories, côté Labour, on a envie vraiment de repartir sur d'autres bases. Et quoi de mieux pour repartir sur d'autres bases qu'une visite protocolaire, officielle, royale? Mais important de préciser aussi, hein, si c'est une visite du roi Charles, c'est quand même organisé par le 10 Downing Street. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi un aspect politique. Donc effectivement, Marianne, c'est un nouveau départ pour la relation franco-britannique.
Mais pourtant, Rishi Sunak, c'est un Premier ministre britannique pro-Brexit. Donc, en quoi on est vers un apaisement des relations franco-britanniques?
Alors, on est sur un apaisement dans le sens où, déjà, il y a quand même la recherche d'un pragmatisme dans la construction des relations des deux acteurs, même si l'un, maintenant, est en dehors de l'Union européenne. Rishi Sunak, effectivement, il est pour le Brexit, mais il a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie depuis qu'il a pris le pouvoir, à réparer ses relations avec l'Union européenne et surtout à, encore une fois, être complètement à l'opposé des provocations de Liz Truss, mais surtout de Boris Johnson. Juste à titre d'exemple, il a conclu récemment un accord pour que le Royaume-Uni retourne dans le programme européen de subvention à la recherche Horizon, qui est un énorme programme de recherche entre tous les chercheurs au sein de l'Union européenne. Et donc, forcément, le fait aussi de nouveau réintégrer les chercheurs britanniques, ben voilà, c'est un pas de plus dans reconnaître le besoin et l'intérêt de participer à un ensemble cohérent et à un programme commun de recherche. Il a aussi, et ça c'était très important, on avait beaucoup parlé du backstop, il a aussi renégocié l'accord spécifique sur l'Irlande du Nord, avec l'obtention d'un allègement sur les contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Ça, c'était quand même un point d'achoppement extrêmement polémique, extrêmement discuté lors du Brexit. Et il a, en mars dernier, il était venu à Paris, il avait conclu un accord bilatéral sur la migration pour que la France retienne les personnes qui tentent de traverser la Manche. Donc, vous voyez, juste à travers ces trois exemples-là, on le voit, hein, l'idée, ce n'est pas un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais c'est comment, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec un Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne, comment on peut construire une relation bilatérale, apaisée et qui profite à tout le monde.
Il n'y a que la question du Brexit qui avait fragilisé les relations entre la France et le Royaume-Uni ?
La question du Brexit, c'était ce qui magnifiait le refroidissement des relations entre le Royaume-Uni et la France, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est plus profond que cela. Il y a eu, pour le rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice, il y a aussi eu les déclarations, par exemple, de Liz Truss qui se demandait si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Donc, il y a des choses qui sont plus profondes. Mais ce que je veux dire, c'est que le Brexit, lui, il a quand même montré le décalage qu'il y avait, en tout cas à l'époque, entre ceux qui considéraient l'intérêt d'appartenir à un marché commun, à une union politique, et ceux qui voulaient absolument en sortir sans forcément en considérer les causes, enfin en considérer, pardon, les conséquences. Voilà, là, ce qui est en jeu, c'est pas tellement de savoir si on va revenir sur le Brexit, mais encore une fois, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une relation bilatérale. Et j'insiste dessus parce que on a beaucoup tendance aussi en Europe à oublier ce que c'est de construire des relations bilatérales parce qu'on appartient à un marché commun. Alors que, en fait, pour chaque pays qui n'appartient à aucune entité, à aucun marché commun, le Royaume-Uni, par exemple, quand vous voulez faire du commerce, quand vous voulez négocier des accords sur la recherche, des accords sur les migrants, des accords sur les biens, les services, avec chaque entité politique, avec chaque pays, vous devez négocier ce qu'on appelle un accord de libre-échange, un traité de libre-échange. On a beaucoup entendu parler ici en Australie parce qu'il y a un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Australie et l'Union européenne. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que le Royaume-Uni a un peu fait la nique à l'Union européenne et a négocié son accord de libre-échange avec l'Australie juste avant l'Union européenne, alors que les négociations ont commencé plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a trop tendance à l'oublier, mais le Royaume-Uni, étant en dehors de l'Union européenne, doit négocier avec l'Union européenne. Alors, c'est un peu plus facilité, mais des accords spécifiques sur chaque domaine, sur chaque dossier, comme il le ferait avec n'importe quelle autre entité politique à travers le monde.
Et pour finir sur le Brexit, si on donne des données concrètes, il y a eu un sondage YouGov réalisé cet été qui dit que 61% des Britanniques aujourd'hui estiment que le Brexit est un échec, ce qui est un résultat plutôt à rebours hein, du gouvernement conservateur qui vante régulièrement la liberté retrouvée du pays, les bienfaits de sortie de l'Union européenne. Ce dont on vient de parler, et d'ailleurs, on a parlé des travaillistes britanniques dans Europa Voice numéro 119, si vous voulez écouter ou réécouter cet épisode. Eh bien, si les travaillistes britanniques arrivent au pouvoir aux élections législatives, ils disent vouloir négocier un meilleur accord avec l'Union européenne, s'ils arrivent à faire passer leur candidat, donc Keir Starmer, mais, dont on a discuté.
Mais juste sur ce point-là, ce meilleur accord, encore une fois, c'est important pour nos auditeurs, ça ne veut pas dire plus de Brexit. Ça veut juste dire, dans l'état actuel des choses, où il y a un Brexit et où le Royaume-Uni est en dehors de l'Union européenne, comment est-ce qu'on a la meilleure relation bilatérale avec l'Union européenne ? Je crois qu'il y a aussi quand même un peu de fierté anglaise, et je ne suis pas là pour taper sur le Royaume-Uni, mais il y a aussi, c'est quand même compliqué. Vous avez fait pendant des mois et des mois la promotion de la sortie d'un accord historique avec l'Union européenne. Ça paraît compliqué de dire, oh, on va revenir dans l'Europe. Donc, ça passe par un accord amélioré avec l'Union européenne. Et effectivement, les travaillistes semblent être plus enclins, Keir Starmer en tête, pour, j'allais dire, approfondir encore plus ce que Rishi Sunak est en train de faire, c'est-à-dire une réparation des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Je rebondis sur cette notion de relation bilatérale. Le roi Charles III ainsi que sa femme ont été reçus en très grande pompe à Paris par Emmanuel Macron et la Première Dame, dîner au château de Versailles, plus de 130 invités. Ils ont été reçus dans le faste. Vous avez un petit peu répondu déjà à la question en parlant du fait que c'était le 10 Downing Street qui était à la manœuvre derrière tout ça. Mais je vais quand même reposer la question différemment. Est-ce que c'est une relation diplomatique Paris-Londres, ou est-ce que c'est plutôt une relation d'homme à homme, Emmanuel Macron et le roi Charles III ?
Il y a effectivement une relation, alors je ne sais pas si c'est une relation d'homme à homme, Emmanuel Macron, Charles III, mais en tout cas, il y a, et notamment depuis le décès de la reine Elisabeth, il y a la presse britannique, même la presse la plus conservatrice, a plutôt trouvé classe, élégante, la position de la France. Et donc, il y a effectivement, je ne sais pas si c'est une bromance, une love story, mais il y a peut-être un peu moins de désamour entre les Anglais et la présidence française et Emmanuel Macron qu'il n'y avait entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et les présidents français précédents. Là, il faut mettre au crédit du président français des relations plutôt chaleureuses qu'il a avec la couronne britannique. Et d'ailleurs, je ne suis pas un expert des royautés, mais on voit qu'il y a une proximité. D'ailleurs, il y a les analystes qui défilent sur les plateaux télé et disent même qu'il y a des manquements protocolaires dans le comportement d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron par rapport aux accolades, aux tapes sur l'épaule. Mais on le voit bien sur les images qui tournent en boucle. Il y a une proximité qui n'est pas feinte entre Emmanuel Macron et la couronne anglaise. Donc je crois effectivement que c'est une relation entre la France et le Royaume-Uni, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui est en train de se réparer, de se réchauffer. Et elle est facilitée, j'allais dire, par le couple présidentiel français qui entretient un bon rapport avec la famille royale. Et juste pour revenir à Emmanuel Macron, il y avait une phrase qui avait été marquante pour la presse anglaise et même pour les plus conservateurs. C'est quand il avait dit, à propos de la mort d'Elisabeth II, il avait dit « To you, she was your queen. To us, she was the queen. » Donc c'était aussi une manière de reconnaître que même pour les Français, même pour lui, la reine Elisabeth, voilà, c'était quelqu'un, c'était la reine c'était la reine en Europe qui était une figure comme ça, immanquable. Donc effectivement, pourquoi pas Emmanuel Macron qui profite de sa bonne relation pour réparer la relation bilatérale entre le Royaume-Uni et la France.
Ça serait intéressant de voir dans 3 ans et demi, quand on va changer de président en France et qu'on aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, si ces relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni vont rester au même niveau. On ne peut pas prédire dans quel état seront ces relations d'ici 3 ans et demi, mais si elles sont bonnes, on verra à ce moment-là si c'était dû à la personnalité d'Emmanuel Macron ou plus à des questions politiques. Vous avez parlé de la reine Elisabeth II. Elle s'est rendue 13 fois en France durant son règne. Elisabeth II, qui était francophile, elle parlait français. Et pourtant, elle ne s'est jamais exprimée devant nos parlementaires. Aujourd'hui, le roi Charles III a donné un discours devant le Sénat. Pourquoi ?
Ça participe du message diplomatique qui est envoyé par le 10 Downing Street, parce que, encore une fois, c'est une visite de la famille royale, mais c'est organisé par le Premier ministre britannique, par Rishi Sunak. Voilà, c'est aussi pour qu'il y ait cette espèce de, peut-être de souverain qui est au-delà des partis, c'est Rishi Sunak maintenant, c'est peut-être Keir Starmer dans quelques mois, pour qu'il puisse s'adresser à la représentation française et qui est aussi peut-être aussi des messages politiques qui soient un peu plus cohérents avec recréer un lien politique entre les pays que ne le sont des dîners simplement et des événements mondains à Versailles où je crois que la famille royale est aussi en train de visite aussi des vignobles dans le Bordelais. Donc ça c'est très bien, mais le message politique, et en tout cas s'il y a un message politique d'une recréation d'un lien, d'une réparation de liens politique entre les deux pays, je crois que ça passe aussi justement par des choses comme des discours devant la représentation nationale. Et j'imagine aussi que protocolairement, je ne suis pas sûr non plus que ce soit des choses qui soient 100% alignées avec ce que la monarchie devrait faire. Mais encore une fois, là, je dépasse un peu mes prérequis et mes connaissances. Mais moi, je crois que surtout que, encore une fois, s'il y a des buts vraiment de nouvelles constructions politiques, et c'est pour ça que des discours, notamment devant la représentation nationale, font sens dans ce cadre-là.
Ils vont parler de quoi pendant 3 jours, Emmanuel Macron et le roi Charles III ? On sait que déjà en 2019, il s'était écrit, parce que le roi Charles III a été très touché par l'incendie à Notre-Dame de Paris. Donc on sait que ça va être un des termes abordés, la reconstruction de la cathédrale. Évidemment, ils ne vont pas parler que de ça. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'ils vont se dire derrière les portes fermées ?
On sait que le roi Charles III est très au fait et très investi dans les questions environnementales. Et donc, j'imagine que ça va être quelque chose qui va être abordé avec, avec le président français.
D'autant plus avec les dernières déclarations de Rishi Sunak.
Voilà, exactement. Ce que j'allais dire, c'est que les positions en plus du roi sont assez opposées à celles du Premier ministre Rishi Sunak, qui n'est pas un...
C'est pas un écolo.
Non, c'est pas un écolo. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas non plus un complotiste de l'écologie. Mais effectivement, les positions du roi sont à l'opposé de celles de Rishi Sunak. Donc je pense que ça va être une bonne manière d'aborder ces sujets-là avec la présidence française. Ça, je crois que c'est une première chose. Et je crois aussi que, encore une fois, puisqu'il est au-delà des partis, je crois que ça va aussi se jouer peut-être moins sur les questions justement économiques et de gestion du quotidien que sur des grandes questions. Donc je pense aussi par exemple que la question migratoire, elle va être abordée de la même manière qu'elle est abordée par des personnalités politiques qui sont au-dessus ou transparties, par exemple le pape, pour ne citer que lui. On sait que de plus en plus, il prend position sur les questions de droits humains, de réfugiés et de questions migratoires. Donc je crois que c'est aussi le positionnement qu'a Charles III, qui est un positionnement qui est au-delà de l'expédition des affaires courantes, qui est sur des questions plus globales. Donc à mon avis, l'environnement, les migrations, les droits humains, etc.
Affaire à suivre, Nathanaël. Et puis la relation franco-britannique va être mise à l'honneur en 2024 hein, avec des échéances diplomatiques à venir, notamment le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Vous en parliez en tout début de cette deuxième partie. L'entente cordiale, eh bien, on va célébrer le 120e anniversaire de l'entente cordiale. En avril prochain, il y aura des festivités. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci, Marianne.
Messieurs, dames, c'était Europa Voice numéro 121. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.